Et c'est la revue de presse de Claude Haskolovitch.
France Inter, le 7-9.
On parle de missile, Claude.
Missile qui s'appelle le Zircon, qui vole 8 fois la vitesse du son et qui, la veille de Noël, se sont envolés en groupe pour la fierté de la Russie. C'était la première fois que le pays de Vladimir Poutine revendiquait non pas le tir d'un seul Zircon, mais d'une salve de ces missiles qui, cette année, vont équiper la marine russe. Et c'est avec cette salve que les Échos nous disent la course aux armements hypersoniques, des missiles capables de voler à plus de Mach 5 pour déjouer les défenses ennemies. À ce jeu, la Russie a de l'avance. Elle prépare des planeurs qui voleront à Mach 27, mais pas seulement la Russie. La Chine aurait lancé l'été dernier, ce fut un scoop du Financial Times, un missile hypersonique qui aurait fait le tour de la planète au-dessus des systèmes antimissiles américains. Aux États-Unis, on parle d'un moment Spoutnik, référence à la guerre froide, quand en 1957, Oncle Sam avait réalisé son retard technologique sur l'Union soviétique qui lançait son premier satellite. L'Amérique d'aujourd'hui aurait 5 ans de retard sur ses rivaux. Il va lui en coûter près de 200 milliards de dollars pour se remettre au niveau. Et vous allez donc lire dans les Échos une course à la vitesse et vous lirez surtout ceci. Cette course aux armements entre puissances intervient quand l'architecture de la sécurité collective, négociée à la fin de la guerre froide, est en ruine. On s'arme quand il faudrait réapprendre à se parler. Et c'est donc à l'ombre des missiles que vous verrez dans le Financial Times une photo de civils ukrainiens en combinaison de ski qui, dans la neige près de Kiev, s'entraînent à tirer avec de faux fusils de bois pour être prêts si jamais la Russie envahissait le pays. On va parler de l'Ukraine entre Russes et Américains le 10 janvier prochain, nous disent les Échos, mais on parlera aussi du contrôle de l'armement nucléaire. Tout est lié. Dans les Échos encore, et dans Libération et dans Le Figaro, on raconte la disparition progressive du journalisme indépendant à Hong Kong, qui se saborde sous la pression du gouvernement chinois. L'Occident proteste, mais l'Occident ne va pas si bien. Vous allez lire sur le site du Monde comment l'assaut du Capitole par une foule de partisans de Donald Trump le 6 janvier 2020 fut précédé par des attaques systématiques du président battu contre l'élection de Joe Biden. Le jour de l'assaut, Trump ayant demandé à ses partisans de faire preuve de force, alla à la Maison-Blanche regarder cette force agir à la télévision. « Néron regarde Rome brûler à la télévision », écrit le journaliste du Monde Piotr Smolar. Pour résumer ce jour, la démocratie américaine vacilla. Une commission d'enquête parlementaire essaye de prouver que la passivité de Trump ce jour-là fut en réalité une conspiration. L'Opinion et l'Express, sur son site, décrivent un Donald Trump contrôlant toujours l'opinion républicaine et qui s'apprête à lancer un réseau social baptisé « Truth Social ».« Truth, la vérité », voilà le missile de sa vengeance.
On parle aussi de photographes ce matin.
Qui chez nous se protègent d'images et peut-être par leurs histoires douces allons-nous conjurer l'actualité. Vous allez lire dans l'Union que dans la Chine des missiles de la presse brimée, une exposition va faire connaître la beauté des champs de céréales de la Champagne, les clairs obscurs des Vosges et de la baie de Somme. Ce sont les photos d'un ancien instituteur, Sébastien Chocot, qui arpente nos campagnes avec son Leica pour se sentir libre et que de belles rencontres emmènent en Chine. Il est fier et en même temps, dit-il, c'est bizarre. Sur le site de La Dépêche, vous verrez Daniel Lobadet, beau barbu biker de Adé près de Lourdes, qui s'est fait connaître en postant sur Instagram des photos de moto, sa passion, et qui, après beaucoup de métiers et un licenciement, a fait de la photo son métier. Sur le site de West France, vous verrez le Brestois Erwan Lebourdet, gestionnaire de biens, mais qui s'est pris de passion pour les photos de navires militaires. Le Jeanne d'Arc dans la tempête en 2014 fut le début de sa saga. Il a été agréé Pomme l'été dernier. Pomme, peintre officiel de la marine. Une de ses photos du sous-marin nucléaire, le Téméraire, orne les murs du PC Jupiter de l'Elysée. Il lance des missiles, ce sous-marin. Dans l'Humanité, ce sont d'autres photos. Vous allez voir le cliché paisible d'une étendue d'eau bordée d'arbres. Elle s'intitule « Bassin de cendres humaines ». Elle a été prise près de l'ancien camp d'extermination d'Auschwitz-Birkenau en Pologne par le Britannique Michael Kenna, qui a passé 15 ans de sa vie à chercher la lumière de l'ombre dans ce qui reste des camps nazis. On expose son œuvre au Musée de la Résistance Intérieure à Champigny.
Et on parle enfin, Claude, d'un opéra.
Et c'est à nouveau, Nicolas, l'histoire qui nous prend et que l'on répare dans le magazine culturel Transfuge, qui nous prépare à la première française d'une œuvre musicale pourtant vieille d'un siècle, inspiré par une pièce antique d'Aristophane, voilà les oiseaux que l'Opéra National du Rhin de Strasbourg jouera à partir du 19 janvier. Transfuge nous promet une beauté délicate et implacable, se réfère à Mozart, Messiaen et Shakespeare, mais nous ayant alléchés, le journal nous raconte l'histoire des oiseaux qui en 1920, pour sa première en Allemagne à Munich, fut un triomphe, mais après 1933, son auteur, Walter Braunfeld, fit partie des artistes et intellectuels interdits par le nazisme, jugés dégénérés, leur œuvre fut effacée, leurs noms nous sont inconnus. Nous savons désormais Braunfels, nous allons pouvoir l'écouter.
Merci Claude pour cette revue de presse.